d'écouter les programmes de Studio Kalungu. Il vient d'être à 17h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, regrette la décision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie d'ordonner le départ de la coordinatrice résidente humanitaire des Nations Unies au Niger, Madame Louise Aubin. Les détails dans un instant. Le groupe Vergnette, en charge de la construction de la centrale hybride solaire des îles d'Agadez, décide de résilier le contrat de construction. Le coup d'État militaire intervenu au Niger serait la raison. Le magazine du journal nous éclaire sur la personne habilitée à avoir un permis d'exploitation minière et la durée de sa validité au Niger. Dans une lettre adressée hier 11 octobre à Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a annoncé qu'Antonio Guterres regrette profondément que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ait ordonné le départ de la coordinatrice résidente humanitaire des Nations Unies au Niger, Madame Louise Aubin, dans un délai de 72 heures. Le porte-parole ajoute que Louise Aubin a dirigé de façon exemplaire le système des Nations Unies au Niger. Cette décision entrave l'ONU à remplir de manière efficace ses mandats et perturbe le travail au Niger où 4,3 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, principalement des femmes et des enfants. Suite au coup d'État militaire intervenu au Niger, le groupe Vergnette, en charge de la construction de la centrale hybride solaire diesel d'Agadez, a informé de la résiliation de ce contrat financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement AFD. La situation ne permettrait plus de poursuivre l'exécution du projet tant du point de vue sécuritaire que financier, a indiqué le groupe. La centrale hybride d'Agadez est l'un des plus grands projets photovoltaïques d'Afrique et jugé particulièrement stratégique par le groupe Vergnette. Toujours en bref, la journaliste et blogueuse Samir Sabou a obtenu hier 11 octobre une liberté provisoire suite à une décision de justice, une information confirmée par son avocat Maître Ould Salem Saïd. Rappelons que Samir Sabou a été interpellé le samedi 30 septembre et retenu dans un lieu non divulgué avant d'être remise à la police judiciaire le 7 octobre 2023. De nombreuses organisations, parmi lesquelles Reporters sans frontières et Tournoi la page, ont appelé à sa libération. La suite de ce journal, les services de l'environnement et de l'élevage de Kyrosérine s'inquiètent cette année des feux de brousse. La campagne pastorale est déficitaire cette année et si les feux de brousse consument le peu de pâturage, cela créerait une situation difficile pour le cheptel, a déclaré le colonel Al-Mustapha Jari. Il est le directeur départemental de l'environnement de Kyrosérine. Il attire l'attention de la population pour éviter ces feux de brousse. On l'écoute au micro de Ahmed Filan.
Dans le département de Kyrosérine, il y a beaucoup d'endroits qui n'ont pas eu assez de fourrage. La campagne fourragère a été déficitaire. C'est pourquoi on appelle les gens à être prudents, particulièrement les éleveurs, par rapport au feu de brousse. Le plus souvent, c'est la négligence. Les enfants peuvent aller dans la brousse et allumer un feu pour griller les reptiles et autres. Ou bien c'est un éleveur qui veut préparer quelque chose. C'est pourquoi il faut complètement éteindre le feu à chaque fois. Avec le vent, ces vraies peuvent consommer le peu de fourrage. Et s'il n'y a pas suffisamment de fourrage, ce sont les éleveurs et leurs cheptels qui vont souffrir. C'est pourquoi on appelle les gens à être plus prudents pour mieux protéger nos brousses.
La situation pastorale de la région de Diffa se caractérise cette année par un manque du couvert herbacé. C'est pourquoi les pasteurs et les animaux surexploitent les aires de pâturage. Oumar Ousmane Hamadou, responsable départemental à Arène de Ménessoroa, fait des suggestions à l'État et aux partenaires. Il est au micro de Mani Moussa.
Il faut qu'il y ait une loi qui va interdire le surpâturage sur un espace X. Sinon, vraiment, c'est pas du tout bon de venir brouter tout un espace et laisser les autochtones dans des problèmes et puis partir. Mais actuellement, la transhumance, c'est du nord vers le sud. Je vous l'avoue, cette année, quelle qu'en soit la situation, les éleveurs vont rentrer au lieu du lac. Même s'il y a cette interdiction, c'est une obligation pour eux pour aller au pâturage dans le lieu du lac. Par rapport à cette cohabitation, c'est toujours de veiller au respect des normes. Si je dis normes, je dis des lois. Donc l'État, il est là, il a mis à la disposition ce qu'on appelle un code pastoral. On a eu ce qu'on appelle le code rural. Nous avons ce qu'on appelle le code de l'eau. Tous ces codes sont à respecter. Ce sont des points qui sont pour la gestion des ressources naturelles partagées.
Et en cette période de récolte, les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont enregistrés dans la région de Tillabéri. À Filengué, les autorités coutumières enregistrent chaque jour des plaintes de l'une ou l'autre partie, et cela malgré les sensibilisations. Pour exemple, le vendredi 6 octobre, le meyak de Filengué, El Hadj Halilou Rafik, a renvoyé la justice en conflit. Il est au micro de notre envoyé spécial, Habib Bougarba.
Juste avant que vous n'arriviez, il y a eu un cas pareil, un problème que nous avons fait de notre mieux pour régler, mais nous n'avons pas pu. Nous étions donc obligés de les référer à la justice. Le problème, c'est que les animaux ont détruit au moins 4 champs. Les agriculteurs les ont convoqués ici, mais ils ont refusé de reconnaître leur tort, malgré l'évidence. Donc nous, l'appel que nous lançons aux agriculteurs, c'est de ne pas se faire justice eux-mêmes. Qu'ils fassent tout pour prévenir le chef du village. Parce qu'il y a un comité dédié pour ces genres de conflits que le chef dirige. Le comité est composé de l'imam, d'un représentant des agriculteurs, le représentant des éleveurs et un représentant de la commission foncière pour les villages qui en ont. Ensuite, ils vont se rendre eux-mêmes sur place pour constater les dégâts, pour que l'agriculteur puisse être dans ses droits et que la paix règne. Et quand le chef n'arrive pas à régler, il les réfère au chef de canton pour que justice soit faite et que les deux parties s'excusent entre elles.
Les événements du 26 juillet au Niger, suivis des sanctions, plus la situation sécuritaire de la zone des trois frontières, ont fait raréfier la clientèle dans plusieurs marchés de bétail du département de Saï, selon un revendeur. Sido Boubacar, démarcheur des bovins au marché de Saï, explique la situation au micro de notre envoyé spécial, Soumana Amadou.
Ici, dans notre marché de Saï, on ne peut que remercier Dieu. Mais nous ne gagnons pas grand-chose. C'est la situation qui est ainsi. Auparavant, beaucoup de clients venaient de l'Est, de Djeime et du Bénin avec des grandes pirogues pour acheter du bétail qu'ils partent revendre. Aujourd'hui, ils ne viennent plus. Le commerce des animaux, c'est tout juste entre nous. C'est pourquoi il y a beaucoup d'animaux, mais pas assez de clients. C'est ainsi dans tous les marchés du département. Nous avons des autorisations d'exercice de la profession de démarcheurs et nous payons la patente à la mairie. Celui qui n'a pas ses papiers, nous ne voulons pas le voir ici dans le marché. Mais il peut s'associer à celui qui a ses papiers. Si j'arrive à vendre un taureau à 200 000 francs, par exemple, l'acheteur me donne 2500 et le propriétaire du taureau me donne 1000 francs avec lesquels je vais payer la taxe du marché pour l'animal vendu.
Les responsables sanitaires de Birnin-Kouani viennent de prendre des mesures pour interdire aux agents de santé de la ville de Lela au Nigeria, frontalier, de venir administrer des soins aux malades nigériens. Cette situation cause assez de problèmes, surtout lorsque les soins échouent, a indiqué Ousmane Abdelmoumouni, communicateur du district sanitaire de Birnin-Kouani. Il est interrogé par Asumana Rizika.
On doit prendre toutes les dispositions nécessaires, comme l'État dispose de ses propres centres de santé et son personnel aussi est sur place. On doit respecter la procédure. Même si c'est au niveau des centres de santé privés, le gouvernement doit d'abord donner son accord pour permettre au personnel d'accomplir ce travail. Ça n'a pas de sens de confier cette tâche à quelqu'un dont on ignore la compétence, de se présenter comme agent de santé. Il va certainement mettre la vie de la communauté en danger. Nous avons mis en garde la population. Nous attirons également son attention pour plus de vigilance, car tout agent de santé qui ne remplit pas les conditions d'exercer ce métier conformément aux décisions du gouvernement ne doit pas le faire. Un bon agent de santé doit être aguerri avant de servir la population. Dans le cas échéant, c'est toute la communauté qui est en danger. Et au moment où les gens vont le constater, il sera déjà trop tard.
L'actualité est toujours en région. La ville de Dosso, comme toutes les grandes villes, connaissent le problème de gestion des déchets ménagers. Une situation qui préoccupe les autorités municipales et citoyens. Le reportage de Nana Hadiza, rendu au studio par Fika Taher.
À Dosso, la ville est confrontée à un déficit d'infrastructures de collecte, de stockage et de recyclage des déchets. Les dépotoirs de la ville sont remplis et débordent sur les artères principales de la ville. Une situation que déplorent quelques citoyens de la ville.
S'il y a des poubelles, on nous indique que tout celui qui amène un déchet doit être versé dedans. Il ne faut pas verser les déchets derrière. On nous a amené une fois une poubelle, mais ça a duré.
Pas la mairie seulement qui est habilitée à arranger la ville. Même la population et tous ceux qui sont dans la ville peuvent apporter leur contribution dans le cadre de la propriété de la ville. La mairie vous a donné un endroit pour verser vos déchets. Ce n'est pas pour remplir le dépotoir jusqu'à déborder.
La gestion des déchets solides à Dosso représente un défi complexe qui nécessite une action concertée à plusieurs niveaux. Soumana Tahirou, deuxième adjoint au maire de Dosso.
On a une population qui ne se soucie même pas de la propriété de la ville. Les peu de moyens que nous avons à notre disposition, nous arrivons à dégager les ordures. Mais le problème, il y a un manque de collaboration et ça met la mairie dans des difficultés.
Les conséquences de ces déchets menacent la santé de la population, selon le directeur régional de l'hygiène et assainissement de Dosso, Amadou Boubacar.
L'évacuation anarchique de ces ordures constitue une source de prolifération pour certains parasites tels que les mouches, les cafards, les moustiques.
La réussite de la gestion des déchets solides à Dosso contribuera à préserver l'environnement.
Le magazine de ce journal, le permis d'exploitation minière, confère à son titulaire le droit exclusif d'exploitation des substances minières qui se trouvent dans les limites de son périmètre. Il comporte, conformément aux lois et règlements en vigueur, l'autorisation de les transporter ou de les faire transporter. Adamou Amadou, juriste au ministère des Mines, nous éclaire sur la personne habilitée à avoir un permis d'exploitation minière et la durée de validité de ce permis. Il est au micro de Rafika Taher.
Qui est habilité à avoir un permis d'exploitation minière?
Le permis d'exploitation, c'est d'abord les sociétés. Sur l'exploitation minière, elle peut se faire par des personnes morales comme par des personnes physiques. La loi a fixé un certain nombre d'autorisations et de permis. Notamment, on a des permis pour petites exploitations, on a des permis pour artisanat minier également. Mais les grands permis, les permis d'exploitation, c'est seulement les sociétés, personnes morales qui peuvent prétendre un permis d'exploitation à grande échelle. Il faut au préalable, c'est un certain nombre de dossiers que vous devez soumettre, il faut au préalable être détenteur d'un permis de recherche. Vous avez eu des indices qui peuvent vous amener à la commercialisation. Une fois que le minerai est extrait, vous pouvez commercialiser. En ce moment, vous demandez à l'État l'autorisation. Le permis, ce n'est qu'une autorisation à exploiter ce pourquoi on vous a donné. Une fois arrivé à l'exploitation, un certain nombre de critères, il faut d'abord des études de faisabilité, il faut des études d'impact, il faut un certain nombre de documents à fournir à l'administration et il faut payer des redevances de certains droits également à l'État. Maintenant, c'est l'État qui va juger de la recevabilité ou non de votre demande.
Quelle est la durée de validité d'un permis d'exploitation minière?
Si la demande est jugée recevable, on vous octroie le permis pour un certain temps. Le permis a une durée de validité également. Et cette validité, on peut renouveler au cas où vous respectez vos obligations. Parce que dans la convention, il y a les obligations. Si vous respectez vos obligations pendant toute la durée de validité du titre, l'État peut vous renouveler. Le cas échéant, si vous ne respectez pas vos obligations dans la convention passée, l'État n'est pas obligé de vous renouveler le permis. Le permis de recherche est valable pour 4 ans, renouvelable par 2 fois par période consécutive de 3 ans, avec possibilité d'une prorogation d'un an au maximum, permis de recherche. Le permis pour petite exploitation a une durée de validité de 5 ans et 10 ans renouvelable jusqu'à épuisement des gisements. L'autorisation d'exploitation semi-mécanisée est pour 5 ans renouvelable indéfiniment. L'autorisation d'exploitation artisanale est pour 3 ans renouvelable également. Donc le permis d'exploitation d'ouverture ou d'autorisation d'ouverture d'exploitation des carrières, elle est attachée à une convention. La durée de la convention est de 10 ans au maximum, renégociable pour période de 5 ans jusqu'à épuisement du gisement.
Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. N'oubliez pas d'écouter les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement et le reste des productions sur l'application Studio Kalungu disponible sur Play Store.